La dernière fois, c'est-à-dire il y a un mois, nous avions vu le premier aspect de la rencontre entre Ulysse et Polyphème. Je rappelle un petit peu de quoi il s'agit. Ulysse rentre de la guerre de Troie. Il n'a qu'une hâte, c'est de retrouver son pays natal, sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Et il va rencontrer un certain nombre d'épreuves en cours de route. Une de ces épreuves, l'une des premières, c'est la rencontre avec le cyclope Polyphème. Nous avions vu qu'Ulysse et quelques compagnons, par curiosité, sont attirés jusque dans la grotte de Polyphème et ils vont l'attendre. Lui adresser la parole, mais celui-ci se comporte d'une manière sauvage en dévorant deux compagnons d'Ulysse. En même temps que nous lisons ce texte de l'Odyssée, dans la traduction de Philippe Jacoté, eh bien, nous réfléchissons de manière philosophique. Polyphème incarne la barbarie. Déjà à l'époque des Grecs, lesquels avaient conscience de leur développement culturel, déjà donc à leur époque se pose la distinction entre la vie civilisée et puis le monde barbare. Les Grecs considéraient les non-Grecs comme des barbares, évidemment c'était aller vite en besogne, mais ça avait au moins le mérite de poser la culture, la vie civilisée à un niveau d'exigence important pour la société. Nous devons traduire ces données en termes modernes. La barbarie existe toujours, elle s'est développée même à travers l'histoire sous différentes formes. J'évoquais les régimes totalitaires, mais il faut aussi penser à des barbaries en douceur, telles que nous pouvons les connaître dans nos pays développés, à travers la manipulation génétique, à travers des projets transhumanistes de refondation de l'homme. Et donc il peut y avoir, à travers ces projets sociétaux, une perspective de transformation de la nature humaine. Or, c'est bien ce qu'incarne Polyphème, cet être curieux qui, à la fois, ressemble à un homme, mais il n'a qu'un œil, il est gigantesque, il est terrifiant. Donc, c'est une forme qui est proche de l'homme, mais qui n'est pas véritablement humaine, ou en tout cas, qui est dans l'ordre de la transgression. Donc, finalement, Polyphème incarne le mal. Et pour les Grecs, cette figure terrifiante leur permet de réfléchir au problème du mal et à ses comportements, au comportement des agents mauvais, ou bien soit des hommes, mais on peut penser aussi aux créatures angéliques, à Satan. Le christianisme est convaincu de ce que le mal est porté par une créature angélique comme Satan, accompagné de démons. Donc nous avons, à travers cette figure de Polyphème, une réflexion, nous pouvons mener une réflexion sur le mal. Et en tout cas, les Grecs le font dans ce texte qui, je le rappelle, date du 10e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Bien, nous en étions restés à l'étape suivante. Deux compagnons d'Ulysse viennent d'être dévorés. Nous voyons qu'Ulysse est plein de colère, mais en même temps, il se maîtrise parce que la vengeance doit s'effectuer dans des conditions qui permettent de sortir de cette grotte, et il ne servirait à rien de tuer FM dans l'immédiat, puisque les hommes ne parviendraient pas à sortir de la grotte qui est fermée. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, il alluma le feu, s'occupa de traire ses bêtes en bonne règle et fit venir sous chacune un petit. Il vint rapidement à bout de ses travaux, puis attrapa deux autres de mes gens pour son repas. On est frappé ici par cette apparente douceur de Polyphème lorsqu'il s'occupe des animaux, et en même temps la brutalité soudaine avec laquelle il s'empare d'êtres humains pour les manger. Cela montre chez Polyphème une sorte d'aveuglement. Il ne voit pas l'homme, il ne fait pas la différence entre l'animal et l'homme, et même d'une certaine manière, il y a comme un renversement des valeurs. Il est soigneux à l'égard des animaux et brutal à l'égard des hommes. Homère veut nous montrer par là que la barbarie est dans une transgression fondamentale, à savoir qu'elle met l'homme en dessous de l'animal. Cela est intéressant aussi par rapport à cet œil du cyclope. Le cyclope n'a qu'un œil. D'une certaine manière, ça renvoie à une forme d'aveuglement, voire d'idéalisme. Polyphème ne voit que ce qu'il veut voir. C'est aussi une caractéristique du totalitarisme. On a affaire à une idéologie. Il y a un certain rapport avec l'intelligence, il y a un projet, il y a une utopie, mais qui est complètement déconnecté de la réalité et qui entend fonder un homme nouveau, une nouvelle société, une nouvelle histoire. Quand il eut déjeuné, il fit sortir son gras troupeau, sans peine déplaçant la grande porte. Puis, en hâte, il la ferma sur nous comme un couvercle de carquois. À grands coups de sifflet, il emmena ses gras troupeaux dans la montagne. Et je restai à chercher ma revanche, un châtiment dont Athéna m'offrit la gloire. On peut voir à travers ce désir d'Ulysse que, à cette époque archaïque, eh bien, on est dans une forme de justice rudimentaire, c'est-à-dire que la justice, ici, se confond avec la vengeance. Il s'agit, pour Ulysse, de se venger de ce qu'a fait Polyphème. Et le divin apparaît comme celui qui va aider à la vengeance. Par conséquent, il y a certes une idée de justice, d'un ordre à rétablir, c'est le principe élémentaire de la justice, l'acte mauvais a rompu un ordre et il s'agit de rétablir cet ordre par une peine, par une punition. Cette idée sera toujours valable au sujet de la justice, mais ici, elle est recouverte par une sorte de dimension passionnelle, la dimension de la vengeance. Et nous verrons que jusqu'à la fin de ce récit, c'est la vengeance qui domine, œil pour œil, dent pour dent. C'est aussi, du reste, dans la Bible, ce sens d'une justice élémentaire, la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, c'est ce qui se passe ici entre Ulysse et Polyphème. Or, voici le projet que mon cœur jugea le plus sage. Le cyclope, contre un enclos, avait laissé son grand gourdin en olivier. Il l'avait coupé vert pour le porter, une fois sec. Nous, le voyant, nous l'avions comparé au mât d'un noir navire à 20 rameurs, d'un bateau de transport fait pour franchir le grand abîme. Telle était sa longueur, tel son diamètre apparaissait. Je m'avançai pour en couper la longueur d'une brasse. Je passai à mes gens, leur ordonnai de l'écorcer. Ils le polirent avec soin. Je vins en aiguiser la pointe et la porter pour la durcir au feu brûlant. Je le dissimulai soigneusement sous le fumier qui par toute la grotte s'amassait en abondance. Ensuite, j'ordonnai à mes gens de tirer au sort celui qui oserait avec moi soulever le pieu et le tourner dans l'œil quand le doux sommeil le prendrait. Ceux-là furent choisis, que j'aurais désignés moi-même. Ils étaient quatre, auxquels je m'adjoignis comme cinquième. Lorsque Ulysse réfléchit aux moyens de punir Polyphème, eh bien, son regard tombe sur ce gourdin que Polyphème avait préparé. Il y voit d'abord un mât. Ce sont des marins. Ils ne pensent qu'à repartir sur leur bateau. On comprend donc que ce soit la première idée qu'ils se fassent au sujet de ce gourdin. Mais rapidement, Ulysse va en tirer parti et il va pouvoir tirer de ce gourdin eh bien, un pieu destiné à être enfoncé dans l'œil de Polyphème. Homère insiste sur le côté technique. Ça montre là aussi que l'homme n'est pas simplement un être capable de contemplation théorique ou de sens moral. Il est aussi un être qui produit. Les trois grandes catégories que les Grecs avaient placées à la tête de la répartition du domaine philosophique, c'était la théoria, la contemplation, la praxis, l'action, avec tout le domaine moral, et la poiesis, qui a donné le mot poésie, la production d'une œuvre qui recouvre à la fois le domaine de la technique et le domaine de l'art. Donc on voit ici que l'on a affaire à l'homme technique, à l'homo faber, et c'est aussi cette dimension technicienne de l'homme qui va permettre à Ulysse de sortir des griffes de Polyphème. On peut voir aussi le courage de ces hommes et la bonne connaissance qu'Ulysse a de ces hommes, puisque les quatre auxquels il avait pensé sont ceux-là même qui se désigne pour venir l'aider dans cette tâche périlleuse. Vers le soir, il revint, ramenant ses brebis laineuses. Vite, dans l'antre vaste, il fit entrer ses gras troupeaux, sans laisser une bête au dehors dans la cour profonde, soit qu'il se méfiât, soit qu'un dieu le lui eût soufflé. Puis, soulevant l'énorme bloc, il emboucha l'entrée, s'assit pour traire ses brebis et ses chèvres bêlantes en bonne règle, et fit venir sous chacune un petit. Il vint rapidement à bout de ses travaux, puis attrapa deux autres de mes gens pour son repas. À nouveau, nous voyons ici le contraste entre la douceur de Polyphème à l'égard des animaux et puis la façon brutale dont il s'empare des vies humaines. C'est alors que je m'approchai pour lui parler, tenant entre les mains la jatte de vin noir. « Tiens, Cyclope, bois ça pour arroser ces chairs humaines, que tu saches quelle boisson notre vaisseau dissimulait. C'était ma libation, si ta pitié nous avait reconduits. Mais ta rage passe les bornes. Malheureux, quel mortel viendrait encore te voir en suppliant maintenant que tu fis cela ?» Je dis. Il prit la jatte, la vida, le doux nectar le ravit à tel point qu'il en redemanda. « Sois gentil, donne-moi encore, et puis dis-moi ton nom tout de suite, que je te fasse un cadeau qui te plaise. Car la terre du blé pour les cyclopes porte aussi le vin en lourde grappe que grossit la pluie de Zeus. Mais ça, c'est de l'essence d'ambroisie et de nectar. » Ainsi dit-il, et je lui reversai du vin de feu. Trois fois je l'en servis et trois fois l'imprudent le but. Puis, quand le vin lui eut embrumé les esprits, je lui soufflai ces mots aussi doux que du miel. « Cyclope, tu t'enquières de mon illustre nom, eh bien, je répondrai. Mais tu n'oublieras pas le don promis. Je m'appelle Personne, et Personne est le nom que mes parents et tous mes autres compagnons me donnent. » À ces mots aussitôt, il repartit d'un cœur cruel. « Eh bien, je mangerai Personne le dernier. » Et les autres d'abord, voilà le don que je te fais. Nous voyons dans ce passage qu'Ulysse aborde le cyclope développe d'une manière très rusée. Il rentre dans son jeu, ou il fait semblant de rentrer dans son jeu, en lui offrant du vin pour rendre ce repas plus agréable. Il y a là, évidemment, quelque chose d'ironique, ou plus exactement, il faudrait dire qu'Ulysse rentre dans l'ironie du cyclope. Parce que, évidemment, Ulysse n'est pas ironique à ce moment-là. Il est dans la sombre tristesse de voir deux autres compagnons dévorés par le cyclope, et on devine combien il faut avoir le cœur bien accroché pour venir dialoguer ainsi avec un homme qui a encore l'odeur et le goût de la chair humaine dans sa bouche. Donc il faut beaucoup de courage. Non, Ulysse n'est pas ironique, mais il est obligé de rentrer dans l'ironie du cyclope pour pouvoir le tromper. Mais le cyclope a lui aussi une certaine volonté de tromper son adversaire, puisqu'il lui annonce qu'il lui fera un cadeau. Et ce cadeau est parfaitement ironique, puisque après qu'il ait révélé son nom, eh bien, il dit à Ulysse, le don que je te fais, c'est de te manger en dernier. On peut penser ici à l'ironie des régimes totalitaires. Par exemple, à Auschwitz, les nazis avaient inscrit à l'entrée du camp « Arbeit macht frei », le travail rend libre. On est en pleine ironie. Il faudrait d'ailleurs se poser la question, pourquoi l'ironie dans un régime totalitaire, pourquoi la barbarie manie-t-elle l'ironie? Parce que je pense que c'est l'étape extrême du mal que d'apparaître comme innocent, d'apparaître comme banal, d'apparaître comme inoffensif. Rien n'est plus terrifiant que cette dimension apparemment inoffensive du mal, alors même que les intentions sont, on ne peut plus, perverses. Et ça montre que le mal a un rapport, enfin le mystère du mal a un rapport avec l'intelligence. Déjà Aristote, sans faire aucunement référence à une lecture religieuse, à une référence à des créatures angéliques, disait que l'homme est le pire des animaux parce que lorsqu'il fait le mal, il utilise la raison. Eh bien voilà, l'ironie, c'est une forme rationnelle au cœur même de la raison, au cœur même du mal. Et en pensant à Machiavel, c'est un sommet, on atteint un sommet du mal lorsque précisément le criminel fait croire qu'il a de bonnes intentions. C'est ce qui se passe ici et ça montre à nouveau combien les Grecs avaient deviné que le mal, dans sa plus grande profondeur, avait rapport avec l'intelligence. Mais Ulysse se défend, lui aussi, avec beaucoup d'intelligence, puisque, ayant compris à qui il avait affaire, ayant compris l'intelligence du cyclope, eh bien, va faire preuve de plus d'intelligence en disant cette phrase célèbre qui va lui sauver la vie. « Je m'appelle personne, et personne est le nom que mes parents et tous mes autres compagnons me donnent. » Alors, ce nom de personne est tout à fait remarquable ici, parce que lorsque les autres cyclopes vont demander à Polyphème « Mais qui t'a fait mal ?» Polyphème répondra « Mais personne m'a fait mal. » Et donc, ça, ça va laisser penser aux autres cyclopes qu'il n'y a pas de coupable, et donc ils ne rechercheront pas s'il y a un Ulysse ou des hommes dans la caverne. Donc ça va effectivement sauver la vie d'Ulysse. Mais en même temps, ce mot personne, c'est pas un mot vide, et ça n'est pas non plus un mensonge. Quand Ulysse dit « je suis personne »,« je m'appelle personne », c'est bien le nom éminent de l'être humain. C'est une personne. Je suis une personne. Et donc c'est vrai de dire « je suis personne ». Je suis une personne. Ce n'est pas un mensonge. Et c'est une façon à la fois tout à fait remarquable de dire une vérité éminente. Tu vois, Polyphème, toi qui dévores des êtres humains, tu ne te rends pas compte que nous sommes des personnes. C'est dire cela, et en même temps, c'est ce qui va sauver la vie d'Ulysse et de ses compagnons. On est à la fois dans le registre, je dirais, théorétique, celui de la contemplation, oui, l'être humain est une personne, et on est aussi dans le registre pratique, puisque ce mot « personne » va permettre pratiquement de sauver la mise. Alors, tête en arrière, il tomba sur le dos, puis sa grosse nuque fléchit. Le souverain dompteur, le sommeil le gagna. De sa gorge, du vin jaillit et des morceaux de chair humaine. Il rôtait, lourd de vin. J'enfouis alors le pieu sous l'abondante cendre pour le chauffer. J'encourageai de mes propos mes compagnons, afin qu'aucun de peur ne défaillît. Mais quand bientôt le pieu d'olivier, dans le feu rougeoyant, quoique vert, jeta une lueur terrible, m'approchant, je l'en retirai. Mes compagnons étaient autour de moi. À Dieu nous insufflait un grand courage. Eux, s'emparant du pieu d'olivier acéré, l'enfoncèrent dans l'œil. Moi, appuyant par en dessous, je tournai comme on fore une poutre pour un bateau à la tarière. En bas, les aides manient la courroie qui le tiennent aux deux bouts, cependant que la mèche tourne. Ainsi, tenant dans l'œil le pieu affûté à la flamme, nous tournions et le sang coulait autour du pieu brûlant. Partout sur la paupière et le sourcil grillait l'ardeur de la prunelle en feu, et ses racines grésillaient, comme quand le forgeron plonge une grande hache ou une doloire dans l'eau froide pour la tremper, le métal siffle, et là gît la force du fer. Ainsi, son œil sifflait sous l'action du pieu d'olivier. Il poussa un rugissement, la roche en retentit. Nous nous enfuîmes apeurés. Alors, il arracha le pieu qu'un sang nombreux salissait de son œil, le jeta loin de lui de ses mains affolées, et à grands cris héla les cyclopes qui habitaient dans les grottes des alentours sur les cimes venteuses. Je m'arrête ici pour commenter ce passage où Homère insiste sur l'aspect technique. On voit la façon qu'ils utilisent pour crever l'œil de Polyphème suppose toute une technicité, parce qu'on a affaire à un monstre, on a affaire à un œil énorme, et que l'erreur n'est pas permise. Donc, dans la lutte contre cette barbarie, il faut une technicité. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut des moyens. Pensons à la lutte armée qui a dû être menée contre les régimes totalitaires, ou encore aujourd'hui, tout le travail diplomatique, technique. L'homme ne peut pas s'en sortir simplement avec la morale. Dans ces grandes affaires que sont la vie politique, eh bien, il y a une technicité. Elle est indispensable pour venir à bout du mal, et ici on le voit de manière très nette. Mais on peut voir aussi qu'il y a comme une sorte de complaisance, de plaisir à voir ce pieu s'enfoncer dans l'œil du cyclope. Alors évidemment, le cyclope est un monstre, il n'est pas un être humain, et donc on peut penser ici que cette complaisance n'est pas coupable, dès lors qu'on met à travers le cyclope toutes ces constructions mécaniques destructrices de l'homme. Mais tout de même, il y a quand même quelque chose d'un peu humain chez ce cyclope, et donc on se sent un petit peu coupable d'éprouver du plaisir à la vue de ce pieu qui s'enfonce dans l'œil du cyclope. Cela montre qu'à cette époque, la notion de justice, encore une fois, est vécue au niveau de la vengeance. Et c'est bien pourquoi la vengeance est inférieure à la justice, parce que dans la vengeance, il y a une dimension passionnelle, il y a une complaisance dans la souffrance de l'autre. Et c'est ça qui fait que la vengeance est évidemment un stade insuffisant par rapport à la justice. Mais la pensée grecque mettra du temps avant de passer à ce plan rationnel de la justice. Cela se voit très nettement dans les deux pièces d'Eschyle, les Coéphores et Euménides, parce que, dans la première pièce, il est question de vengeance. Oreste va venger le meurtre de son père en tuant sa mère qui a assassiné son mari, Agamemnon. Et donc, tout se passe sous la présidence des déesses de la vengeance qui s'appellent les Érinies. Et dans la deuxième pièce, Eschyle nous montre qu'il faut passer à une autre juridiction, à une autre direction. Ce ne sont plus les Érinies qui vont diriger les opérations, mais ça va être Athéna, la déesse de la sagesse. Et précisément, Athéna va instituer le premier tribunal à Athènes, où là, ce seront des citoyens qui vont se prononcer sur cette affaire, et c'est la naissance de la justice. Donc on voit bien ici dans ce texte qu'il y a encore un esprit de vengeance qui domine. On le voit à travers la complaisance qu'il y a dans cette vengeance. Donc Polyphème va s'adresser aux autres cyclopes. « Quel mal t'accable, Polyphème, pour que tu cries ainsi dans la céleste nuit et nous empêches de dormir? Serait-ce qu'un mortel emmène malgré toi tes bêtes? Serait-ce qu'on te tue par la ruse ou la force ?» Du fond de l'antre, le grand Polyphème répondit « Par ruse et non par force, ami, mais qui me tue? Personne !» En réponse, on lui dit ces paroles ailées « Si tu es seul et si nul ne te fait violence contre la maladie qui vient de Zeus, on ne peut rien. » Implore donc plutôt le seigneur Poséidon, ton père. » Voilà, c'est là que le nom de personne va sauver la vie d'Ulysse et de ses compagnons. Donc on peut voir qu'il avait anticipé sur la suite des événements lorsqu'il s'était désigné par ce nom. Ils s'éloignèrent sur ces mots, et mon âme riait de les voir abuser par mon nom et par ma personne. Le cyclope, geignant et torturé par la douleur, vint enlever en tâtonnant le bloc d'entrée, puis s'assit dans l'entrée en étendant les bras, pour nous prendre si nous sortions parmi les bêtes. Il me croyait dans ses entrailles assez sot pour cela. Mais je me demandais comment nous en tirer au mieux, cherchant quelques moyens pour mes compagnons et pour moi d'échapper à la mort. J'ourdissais sans tour et sans ruse, car notre vie était en jeu et le désastre proche. Or, voici le projet que mon cœur jugea le plus sage. Il avait des béliers bien nourris, d'épaisses toisons, beaux et grands, qui portaient une laine foncée. Sans bruit, je les liais avec ces osiers bien tressés, sur lesquels le géant sans justice dormait, trois par trois. Celui du milieu porterait l'homme, les deux autres le flanqueraient, sauvant mes gens. Ainsi, chaque homme était porté par trois béliers. Pour moi, il restait un bélier plus beau que tous les autres. Le saisissant au rein, je me glissais sous la toison du ventre. accroché par les mains à sa laine admirable, je m'y maintins de toute ma vigueur patiemment. Ainsi nous attendîmes, gémissant, l'aube divine. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, les béliers aussitôt bondirent vers le pâturage. Les femelles bêlées, qu'ils n'avaient traitées, près des parcs, le pis gonflé. Rongé de malignes douleurs, le cyclope palpait le dos de chaque bête qui passait, mais le sot ne sut pas deviner qui était attaché sous le poitrail laineux des bêtes. Le dernier du troupeau, mon bélier, marchait vers la porte, alourdi par sa laine et par mon poids d'homme rusé. On voit dans ce passage qu'Ulysse a su utiliser les animaux. Polyphème mettait les animaux au-dessus des hommes, et là, l'homme va se mettre au-dessus de l'animal en l'utilisant, tout en se mettant en dessous physiquement. Hein, la métaphore est puissante. L'homme se met au-dessus de l'animal par l'utilisation qu'il fait de l'animal, et il montre par là sa nature spirituelle, qui fait qu'il est d'un degré supérieur aux animaux et même transcende le plan de la matière. L'animal n'est pas capable de faire ce que l'homme fait ici avec l'animal. Et en même temps, il se met sous l'animal. Donc son intelligence va jusqu'à atteindre un sommet, si j'ose dire, en se mettant dessous, de manière à ne pas être vu par Polyphème. On voit aussi qu'Ulysse est le dernier à sortir, en bon capitaine qu'il est. Il s'assure d'abord que tous ses hommes sont en sécurité avant de sortir lui-même. Polyphème le grand, le tata, il lui dit: « Tout bélier, qu'y a-t-il pour que tu sortes le dernier de l'antre? Jusqu'ici, tu ne restais pas en arrière, mais courais le premier, paître des tendres fleurs des prés. À grands pas, le premier, tu atteignais le cours des fleuves. Tu voulais être le premier de retour à l'étable chaque soir. Te voilà le tout dernier. Pleurerais-tu l'œil de ton maître? Un scélérat me l'a crevé avec ses tristes compagnons en m'enivrant. Personne qui, crois-moi, n'est pas encore hors de danger. Ah, si tu partageais mes ennuis et pouvant parler, me souffler où ce misérable fuit ma rage. Alors le crâne ouvert, sa cervelle, par la caverne arroserait le sol. Mon cœur s'allégerait un peu du mal que ce pervers de personne m'a fait. » La situation est parfaitement ironique parce que Polyphème s'adresse au bélier qui n'est pas en mesure de lui répondre, ce qui montre que Polyphème est enfermé dans son solipsisme, dans son égocentrisme quasiment métaphysique, qui là est d'autant plus vertigineux qu'il est en train de sombrer, puisque son seul organe de vision ne peut plus fonctionner. Il ne voit plus rien, symbole de ce que son intelligence est complètement refermée sur elle-même dans une sorte d'idéalisme métaphysique. Et la situation est d'autant plus ironique Ulysse est accroché à ce bélier. Il entend tout, et même d'une certaine manière, il est le destinataire indirect de ce discours de Polyphème. Donc la situation là est parfaitement ironique, et on repense à ce que disait Homère au début de ce passage. Le langage est la caractéristique de l'homme. Au fond, on voit que Polyphème ne sait pas communiquer. Alors il sait parler, hein, il utilise des mots, mais il ne sait pas communiquer puisqu'il s'adresse à des animaux qui ne peuvent pas lui répondre. Se disant de sa place, il poussait le bélier dehors. Quand la grotte et sa cour ne furent plus trop près, je me dépris d'abord, puis détachai mes compagnons. Nous poussâmes les gras troupeaux aux pattes grêles, vite, par sans détour, jusqu'à rejoindre enfin le navire. Nos compagnons, réjouis de nous voir échappés de la mort, versèrent des pleurs sur les autres, mais fronçant des sourcils, je leur fis signe de cesser les pleurs, leur ordonnai de vite embarquer le troupeau de belle laine et de reprendre tôt la mer. Embarqués promptement, ils prirent place à leur tollé en bon ordre et frappèrent de leur rame la mer grise. Mais, quand on s'en trouva à la portée d'un cri, je lançai ce discours moqueur à Polyphème. « Ce n'étaient pas les compagnons d'un lâche, Polyphème, que tu mangeas dans ton antre profond par violence. Tu n'auras pas tardé à payer le prix de tes crimes, cruel, qui ne crains pas de dévorer des hôtes en ta maison. Zeus et les autres dieux t'en ont châtié. » Je ne fis par ces mots qu'augmenter sa colère. Il arracha la cime d'un mont, la jeta. Elle tomba devant notre navire à la proue bleue. La chute du rocher créa un remous dans la mer. Le flot en refluant porta le bateau vers le bord et le courant du large nous poussa vers le rivage. Donc nous voyons qu'Ulysse ici a rejoint ses autres compagnons qui étaient restés sur le bateau. Tous se retrouvent, il y a un moment de joie, mais auquel il ne faut pas s'attarder, puisque le danger est toujours présent. Mais malgré cette conscience du danger, et là nous voyons une limite du caractère d'Ulysse, qui va d'ailleurs lui coûter cher, Ulysse ne peut pas s'empêcher d'interpeller Polyphème pour, en quelque sorte, accentuer sa vengeance. Et il se moque de lui, ce qui met Polyphème dans une colère encore plus noire. Mais moi, de mes deux mains, empoignant une grande gaffe, je résistais à la poussée, j'encourageais mes gens, d'un signe de la tête, ils se ployèrent sur leur rame, mais lorsque cet effort nous eut conduits deux fois plus loin, j'appelais le cyclope encore. Autour de moi, mes gens, l'un après l'autre, avec des mots de miel, me retenaient. « Malheureux, que vas-tu irriter ce sauvage? Le voilà qui, jetant ce roc dans l'eau, a ramené le bateau vers le bord, et nous avons failli périr. Si jamais il entend une voix ou des cris, il brisera nos crânes avec les poutres du bateau de quelque âpre rocher, car il peut encore nous atteindre. » Ces mots ne persuadaient pas mon âme fière, et je repris, l'interpellant plein de rancune, « Cyclope, si jamais quelque mortel t'interroge sur ton affreuse cécité, dis-lui que tu la dois à Ulysse, fléau des villes, fils de Laerte et noble citoyen d'Ithaque. » Donc nous voyons ici Ulysse à nouveau révéler son nom, ou en tout cas c'est la première fois qu'il le fait, mais il continue de se venger, et pour mieux se venger, il révèle son nom à Polyphème. À ces mots, il me répondit en gémissant. « Hélas, voilà les vieilles prédictions réalisées. Il y avait ici un noble et grand devin, un nommé Télémos, fils d'Eurymos, très bon prophète, qui vieillit parmi nous en nous disant l'avenir. C'est lui qui me prédit tout ce qui vient de m'arriver, à savoir que des mains d'Ulysse, je perdrai la vue. Mais moi, je m'attendais à voir venir ici un grand et beau guerrier, doué d'une extrême vigueur, et c'est un petit homme, un lâche, un rien du tout qui vient me crever l'œil en me noyant de vin. Mais viens un peu, ami, que je te fasse mon cadeau. Je demanderai ton retour au maître de la terre. Je suis son fils, il prétend m'avoir engendré. Lui, s'il lui plaît, me guérira. Personne d'autre, ni parmi les mortels, ni parmi les dieux bienheureux. » Donc on voit ici le cyclope comprendre tout à coup ce qui lui arrive, parce que les événements qu'il vient de connaître lui avaient été prédits. Ça montre aussi l'aveuglement du cyclope. Il n'avait pas prêté suffisamment attention à la prédiction. Ça montre aussi que dans ce contexte de la Grèce archaïque, la vie est en quelque sorte prédéterminés. Les dieux jouent un rôle écrasant dans la destinée des êtres humains comme des géants, des cyclopes. Nous voyons que le cyclope a beau être un des enfants de Poséidon, du dieu Poséidon, eh bien, il n'échappe pas à cette règle d'une vie déterminée, d'un destin joué d'avance. À ces mots, je lui dis en guise de réponse: « Ah, si les dieux voulaient que je te prive de la vie, que je t'ôte le jour et t'envoie aux maisons d'Hadès, aussi vrai que ce dieu ne te rendra jamais la vue. » À ces mots, il pria le seigneur Poséidon en élevant les mains vers le ciel constellé. « Écoute, Poséidon aux cheveux bleus, maître des terres, si je suis vraiment ton fils, toi qui prétends m'avoir fait, empêche de rentrer chez lui cet Ulysse, fléau des villes. Mais si son sort est de revoir les siens, de revenir dans sa belle demeure et sur le sol de son pays, que ce soit après bien des maux, tous ses compagnons morts sur un vaisseau d'emprunt pour trouver chez lui d'autres peines. » Telle fut sa prière et le dieu sombre l'exauça. Donc on voit ici que la prière du cyclope adressée au dieu Poséidon sera exaucée parce qu'en effet, Ulysse va perdre tous ses compagnons, connaître de nombreuses épreuves et rentrer dans un état lamentable chez lui à Ithaque. Alors prenant un autre bloc plus lourd encore, il le fit tournoyer, le lança de toute sa force. Il tomba dans le dos de notre vaisseau à trous bleus, manquant de peu toucher la pointe des tambons. La chute du rocher créa dans la mer un remous, le flot revint, poussant le bateau vers le bord. Mais quand nous atteignîmes l'île où les autres bateaux bien pontés étaient réunis, où l'équipage en larmes était assis autour de nous à nous attendre, arrivés là, nous échouâmes le bateau dans le sable. Je débarquai du vaisseau creux les bêtes du cyclope, et le juste partage en fut approuvé par chacun. Mes compagnons guettrés m'attribuèrent le bélier en surplus, le partage fait. Je l'offris sur la grève à Zeus, qui règne sur le monde, au dieu du sombre ciel brûlant les cuisses. Mais il dédaigna l'offrande, car il se demandait toujours comment anéantir mes compagnons, fidèles et mes navires bien pontés. Donc, de justesse, Ulysse échappe à Polyphème, il rejoint les autres bateaux, et là, ils vont faire une offrande au dieu Zeus pour le remercier d'être en vie et pour lui demander sa protection. Nous voyons que ce contexte religieux est très intéressé. Au fond, on se tourne vers les dieux pour s'en sortir dans la vie. Il n'y a pas véritablement de gratuité, il n'y a pas véritablement d'amour. C'est plus une sorte de contrainte, c'est une sorte de contrat. Mais il y a quand même cette idée qui est au cœur de toute démarche religieuse, y compris païenne, de reconnaître qu'il y a un divin au-dessus de la nature, qu'il y a un divin au-dessus de la vie des hommes, et que la vie humaine doit se comprendre dans un ordre qui ne trouve sa dernière résolution, son sens ultime, que dans le divin. Nous apprenons ici que Zeus n'accepte pas cette offrande parce qu'il reproche à Ulysse de ne pas l'avoir faite plus tôt en quittant la terre troyenne. Et donc Ulysse ne profitera pas de la protection de Zeus. Athéna interviendra tout au long du voyage d'Ulysse pour limiter les dégâts, puisque Poséidon va se venger, va venger plus exactement son fils Polyphème, et le retour d'Ulysse sera bien compliqué. Le soleil se coucha, le crépuscule vint, et nous nous étendîmes sur la frange des brisants, lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses. D'un ton pressant, j'enjoignis à mes gens d'embarquer à leur tour et de larguer la mare. Embarqués promptement, ils prirent place à leur tollé en bon ordre et frappèrent de leur rame la mer grise. Nous reprîmes alors la mer avec tristesse, heureux d'être vivants, mais pleurant nos compagnons morts. Voilà comment s'achève cette rencontre entre Ulysse, l'aventurier, et Polyphème, le cyclope. Ce texte nous montre à la fois que les Grecs avaient su mettre en place des notions fondamentales que la philosophie reprendra quelques siècles plus tard, notamment à travers Platon et Aristote, la notion de moralité, la dimension sociale, le rôle du langage, le côté incarné de la vie humaine, l'homme est un mangeur de pain, la notion de justice, même si là elle est dominée par l'esprit de vengeance, le sens de la personne, la ruse aussi de l'homme, la dimension pratique, mais aussi technique, un certain sens aussi de la contemplation et de la vérité, et puis en face, cette barbarie caractérisée par la force, qui ne se sent à l'aise que finalement avec l'animal. Donc la barbarie est à mettre en rapport avec la sauvagerie. Tout cet enseignement est riche et nous montre combien les Grecs avaient repéré les grands thèmes philosophiques qui se développeront à travers l'histoire, mais aussi avaient commencé à élaborer un certain nombre de réponses. Ce texte archaïque est riche d'enseignements aussi en cette période de carême sur le mal, sur la puissance du mal, mais en même temps sa superficialité, et puis les enjeux, la personne humaine qui doit être au centre et qui a suffisamment en elle-même et avec l'aide de la grâce de quoi trouver les armes, les moyens de lutter contre le mal. Alors certes, ce texte est loin d'être à la hauteur de tout ce que la Bible nous enseignera sur le mal, sur la lutte contre le mal, la lutte contre Satan. Il y a de nombreuses zones qui restent dans l'obscurité dans ce texte païen, mais en même temps, nous pouvons voir qu'il y a des éléments qui trouveront leur accomplissement dans la révélation judéo-chrétienne. Voilà, puisse ce texte et ces réflexions vous aider dans ce temps de carême. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain.